Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
La planification est une condition préalable au bon fonctionnement d'une organisation. Ce sont les experts qui les disent. Et sans cela, vous ne pouvez savoir où vous allez ni pourquoi vous agissez. D'où l'importance de réaliser vos actions à l'aide d'un plan stratégique soigneusement élaboré. Alors, quelles sont les étapes nécessaires à la planification des actions dans une ONG? Pourquoi planifier et qu'est-ce que cela entraîne comme résultat? Alors, pour en savoir, pour avoir des réponses à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Madame Brigitte Kanika, experte en développement. Madame, rebonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par amas? C'est quoi la planification?
Comme vous l'avez bien défini, la planification, c'est réfléchir profondément à ce qu'on doit faire avant de le faire. Donc, planifier, c'est savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on veut y aller, dans le terme le plus vulgaire qui soit. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, on se pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, comment on va y arriver et avec quels moyens. Et c'est tout simplement cela qu'on appelle la planification.
Bien, alors vous avez longtemps évolué dans le milieu des ONG, vous avez formé beaucoup de gens. Alors dites-nous, quelle est la situation, à quel état des lieux on peut faire des ONG congolaises aujourd'hui? Est-ce que les responsables ont l'habitude de planifier ou bien on évolue comme ça?
En tout cas, il y en a beaucoup qui ont déjà l'habitude de planifier. C'est-à-dire, avant de commencer une action, ils se demandent d'abord qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire et avec quels moyens. Parce que si vous ne planifiez pas, c'est très difficile que vous puissiez savoir avec combien de moyens il vous faudra, qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Mais aussi, malheureusement, il y en a aussi certaines ONG qui ne planifient pas et qui naviguent à vue. Et la planification, c'est un peu comme une boussole dans un bateau. Quand vous n'avez pas de boussole, vous pouvez vous retrouver n'importe où, au gré de vagues, selon le courant d'eau. Et vous allez vous retrouver peut-être là où vous ne vouliez pas aller. Et en matière de la gestion des organisations, de la gestion des ONG, la planification aussi nous sort des guides. C'est un instrument de prise de décision. Et ça nous aide à savoir qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller et pourquoi nous voulons y aller, quels moyens il nous faut pour y arriver. Mais comme je disais tout à l'heure, malheureusement, il y a certaines institutions qui ne le font pas. Et cela, ça ne vous étonnerait pas, ce sont des ONG qui n'atteignent jamais des objectifs. Ils sont là juste pour le besoin de la cause et ils commencent des actions et ce sont des actions qui s'arrêtent
en cours de route.
Oui, et puis ils n'ont pas d'impact parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent.
Voilà. Des questions de préoccupation par rapport à ce thème, appelez-nous au 081-890-63-94. Alors pour eux, ceux-là qui veulent apprendre, par où doivent-ils commencer pour bien planifier leurs projets, leurs activités?
Par où ils doivent commencer? Ils doivent d'abord commencer par réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Et donc, en planification, nous avons trois étapes essentielles. Nous avons d'abord la planification stratégique. Nous avons ensuite la planification de mise en train ou la programmation. Et puis, en dernier lieu, nous avons la planification opérationnelle. Par rapport à la planification stratégique, c'est là où l'ONG doit réfléchir sur le problème. Comment se pose un problème? Comme nous l'avons déjà dit la fois passée, qu'un projet, c'est une réponse à un problème. Je n'ai pas dit que c'est une réponse à un besoin. Parce qu'un besoin est différent d'un problème. Un besoin, quand il se pose, vous apportez la solution et le besoin disparaît et il y a d'autres besoins qui se créent. Tandis qu'un problème, c'est une situation qui demande des solutions durables. Et donc, un projet doit être une réponse à un un problème.
Et non à un besoin.
Et non à un besoin.
Ok.
Le besoin, un projet devient la réponse à un besoin dans le projet que nous appelons le projet d'urgence.
Ok.
C'est uniquement en ces cas-là que le projet... D'abord, ce ne sont même pas des projets, mais ce sont juste des solutions qu'on apporte à des besoins qui se posent.
Mmh.
Et ça, ce sont des projets d'urgence.
Okay.
Mais par rapport à un projet pour une ONG quelconque, il commence d'abord par la planification stratégique. Donc, ils doivent commencer par se poser la question, quel est le problème?
Identifier les problèmes.
Identifier le problème.
Mmh.
Et cette identification doit être spécifique. On doit savoir comment le problème se pose réellement. À partir du moment où on sait que le problème se pose, on va essayer d'analyser le problème. Comment se pose le problème? Je prends un exemple.
Mmh.
Dans le village Kwamout, par exemple, il y a un problème de mortalité infantile. C'est un problème.
Les enfants meurent dans le Bandundu.
Non, c'est un exemple.
Oui,
j'ai pris juste un exemple.
Mm-hmm.
Il y a un problème de mortalité des enfants qui se pose.
Ok.
C'est un problème. Mais ça ne suffit pas de savoir qu'il y a la mortalité. Mais en plus, il faut se poser la question, pourquoi les enfants meurent? Et quand on a analysé les problèmes, on sait que les enfants meurent parce qu'il y a un problème de malnutrition.
Mmh.
Ok?
Oui.
Donc, on a analysé les problèmes qui se posent. Le problème, c'est ce qui est visible, hein, en fait.
Voilà.
Le problème,
il faut se poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'origine.
Le problème, c'est ce qui est visible.
Okay.
Il y a la mortalité infantile.
Mmh.
Ça, c'est un problème. C'est comme, je prends toujours un exemple d'un arbre. Hein. Donc, nous avons l'arbre. Nous voyons le tronc. Le tronc, pour nous, constitue le problème. C'est ce qui est visible.
Mmh.
Mais cet arbre-là est là parce qu'il est soutenu par quelque chose qui sont les racines.
Faut chercher la
racine. Et c'est les racines-là, ce qu'on appelle la cause du problème.
Mmh.
Et c'est ce que nous devons chercher à analyser. Quelles sont les causes de ces problèmes? Et à partir de ces causes, on doit chercher maintenant à analyser les solutions possibles. Et ça, toutes ces étapes-là, c'est ce que nous appelons la planification stratégique.
Donc, ça demande une réflexion, c'est l'étape
absolument
de réflexion.
Absolument, ça demande vraiment des réflexions.
Oui.
Et plus le projet est grand et complexe, plus cette étape est très, 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 très importante.
Bien, on va poursuivre tout à l'heure le temps d'accueillir Blanchard Louanin qui nous appelle de Kinshasa. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour.
J'allais dire que vous êtes en Bandaka. Souvent, vous nous appelez à partir du Bandaka. Maintenant, vous êtes à Kinshasa, Blanchard.
Oui, j'ai une question.
Ok, on vous écoute.
Oui, elle est la suivante.
Oui.
Comment peut-on aider les ONG, donc qui sont en milieu rural, à bien planifier leurs activités, surtout quand elles n'ont aucun bailleur de fonds? Voilà.
Bien, merci pour la question. Et nous avons également en ligne Dr Zéphirin Banidoloa, voilà. Et il nous appelle de Kindu. Bonjour, Dr Zéphirin. Dr Zéphirin, bonjour.
Gardez l'écoute, votre.
Oh, désolé. Bien, on ne va pas garder l'écoute. Hein. Nous, on continue l'émission. Madame Brigitte, vous avez la parole.
Oui, j'aimerais répondre à la question de Blanchard qui a demandé comment est-ce qu'une ONG peut arriver à planifier ses activités sans qu'il ne puisse avoir un bailleur.
Mm-hmm.
Je crois que dans les émissions précédentes, j'avais bien expliqué qu'on ne crée pas une ONG en attendant qu'il y ait des bailleurs. Une ONG, c'est une institution qu'on met en place pour venir en aide aux gens qui ont des problèmes. Et si vous voulez venir en aide aux gens qui ont des problèmes, la première des choses, c'est qu'il faudra que vous-même, vous puissiez avoir des moyens pour subvenir aux problèmes auxquels vous voulez faire face.
Et il ne faut pas compter sur le bailleur, des fois.
On ne compte pas d'abord sur le bailleur, parce que le bailleur n'est sans qu'une troisième main. Un être humain n'a que deux mains. Et en tant que tel, vous devez compter d'abord sur vos propres moyens. Et c'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup d'ONG qui ne réussissent pas, pour la simple raison qu'ils se sont mis en place tout simplement pour rechercher de financement. Et en ces moments-là, quand les bailleurs ne sont pas là, il n'y aura aucune activité qui va se faire.
Parce qu'il n'y a pas de financement.
Parce qu'il n'y a pas de financement.
Oui.
Et donc, je disais que InONG se met en place pour venir en aide aux gens qui ont des problèmes. Et si vous voulez aider ceux qui ont des problèmes, vous devez d'abord avoir vos propres moyens. Et la planification, comme je disais tout à l'heure, la planification va vous amener à déterminer le moyen dont vous avez besoin. Et ces moyens, je suppose que vous devez d'abord avoir le minimum possible pour commencer les actions, mmh, en attendant que vous puissiez voir s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent vous appuyer.
Mais ce vous n'est devez pas avoir au moins combien de pourcents, 50% des,
bon, ça dépend des ressources, hein. Ça dépend des activités que vous voulez mettre en place. Mmh. Et actuellement, tout le bailleur exige qu'il y ait au moins 10%. Les autres vont jusqu'à 20% ou 30% des apports locaux. Donc, il faudra que vous-même, vous puissiez avoir deux moyens. Quand vous demandez, par exemple, 5 000 $, il faut que vous arriviez à prouver que vous-même, vous avez déjà 20 000. Donc, ne pensez pas qu'on va vous donner les 100 000 directement.
Mmh.
Donc, Monsieur Blanchard, il est très important de planifier, même si on n'a pas encore un bailleur de fonds, mmh, mais si vous voulez mener les activités, vous devez absolument commencer par planifier, savoir ce que vous voulez faire.
Bien. Alors, après l'étape de la réflexion, la première étape, planification stratégique, la deuxième.
La deuxième étape, c'est ce que nous appelons la planification de mise en train ou la programmation.
Okay.
J'avais dit que dans la première étape, qui est l'étape de planification stratégique, vous avez cerné le problème, vous avez trouvé les solutions possibles, vous avez analysé chaque solution,
oui,
et vous avez retenu une solution que vous pensez être la meilleure et qui répond financièrement et techniquement à vos moyens et qui soit une réponse réelle au problème qui se pose.
Okay.
Quand vous l'avez retenu, nous avons terminé avec la planification stratégique.
Mmh.
Maintenant, nous passons à la deuxième planification qui est la planification de mise en train ou la programmation.
Okay.
À ce moment-là, vous devez maintenant réfléchir sur les détails de cette solution que vous pensez mettre en place. Et c'est cette solution-là que nous appelons les projets. Ok. Mmh. Et vous réfléchissez maintenant, nous aurons besoin... Par exemple, pour notre exemple de tout à l'heure, la mortalité infantile à Kwamout, vous avez identifié plusieurs solutions possibles, mmh, d'où la mise en place d'un centre nutritionnel, la création, la recherche de semences améliorées, la planification familiale et tout ça. Vous vous êtes dit, bon, nous allons créer un centre nutritionnel. C'est la réponse à laquelle vous voulez vous attaquer. En ce moment-là, vous passez maintenant à la planification de mise en train. Vous allez vous poser la question, pour mettre en place ces centres nutritionnels,
oui,
qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut avoir intérêt, il faut avoir de moyens pour construire, il faut engager du personnel, qu'est-ce que ça va nous demander comme moyens, qu'est-ce que ça va nous demander comme ressources financières.
Bien, on y revient tout à l'heure, le temps d'accueillir Esther Oubedi qui nous appelle des Mahagui dans la province orientale. Vous voulez également participer? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment planifier les activités au sein d'une ONG? Esther Oubedi, vous êtes à Mahagui, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour notre invité. Je profite de l'occasion pour souhaiter merci à toute l'équipe de l'OCAPI Service ainsi que tous les auditeurs de la radio OCAPI.
Merci Esther. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci pour le sujet du jour qui est intéressant, qui fait pratiquement partie de nos vies quotidiennes. J'ai une préoccupation à l'égard du sujet et elle s'articule comme ceci. On peut arriver à bien planifier ses activités par rapport aux objectifs voulus, mais une chose est vraie, que si l'arrivée des hypothèses telles que la guerre, les conflits et d'autres trucs pouvant d'une façon ou d'une autre compromettre la réalisation des activités, dans ces cas, faut-il arrêter les activités en attendant les beaux temps où les experts à la planification ont prévu quelques alternatives ou quelque chose en cas d'arrêt de l'évolution? l'évolution normale des activités planifiées, cela dans le but d'atteindre les objectifs poursuivis par la planification. Merci.
Merci Esther. Madame Bouzita.
Merci beaucoup Esther et nous vous réitérons nos meilleurs voeux ainsi qu'à tous les auditeurs de Mahagui. La question elle est assez pertinente. Hein. Vous avez bien planifié. Vous avez commencé les activités sur le terrain, mais malheureusement, il y a un imprévu qui peut être une guerre ou une calamité naturelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faudra-t-il arrêter ou il faut continuer? Cela dépend du contexte dans lequel on se retrouve. C'est vrai qu'il y a des situations qui ne peuvent pas vous permettre à continuer. Vous devez arrêter. Mm-hmm. Si vous devez continuer et que cela risquerait de mettre en danger la vie des personnes qui travaillent dans le projet ou même la vie de la population, parce que quand il y a une situation de guerre, par exemple, c'est impossible qu'on continue à mener toutes les actions. Les actions dans tout le domaine s'arrêtent en attendant qu'il y ait la paix. Et en ces moments-là, vous pouvez arrêter et s'il y a... il y a accalmie en ces moments-là, vous pouvez continuer. Mais cela aussi dépendra de si vous avez, par exemple, des bailleurs et tout ça. Ça, c'est ce que nous appelons de cas de force majeure. Hein. Et les cas de force majeure, personne ne peut se targuer d'avoir des solutions. Ça dépendra du contexte dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Mmh. Et je pense que c'est plus rationnel d'arrêter en attendant que la situation s'améliore et de continuer avec les actions là où vous les avez arrêtées dès qu'il y a accalmie.
Mmh. Alors, vous étiez en train de dire que par rapport à la planification des mises en train ou la programmation, on réfléchit sur les détails. On forme des projets, par exemple, l'école des Kwamouth, le centre de santé des Kwamouth. Il faut penser à construire, d'abord acheter un terrain, construire, engager.
Là, on n'a pas encore fait. Hein. Là, oui. On est en train maintenant de planifier. Mmh. C'est ce qu'on doit faire. Parce que dans la planification stratégique, on s'est arrêté qu'on devait construire un centre nutritionnel. Maintenant, on passe à la programmation. Ou la mise en train, la planification de la mise en train.
Oui.
À ce moment-là, on commence à réfléchir. Pour que nous ayons notre centre nutritionnel, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons le construire. Premier élément, nous devons trouver un terrain. Deuxième élément, nous devons acheter les matériaux. Troisième élément, nous devons disposer du personnel
de
nutritionniste et tout ça. Mmh. Troisièmement, peut-être qu'il faudra de l'alimentation,
l'équipement
et tout ça. Et qu'est-ce que
les
tout
médicaments.
Cela... Voilà, le médicament et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que tout cela peut nous coûter? Qu'est-ce que nous aurons besoin comme moyens? Moyens matériels, moyens humains, moyens financiers. À ce moment-là, nous les détaillons tous. Et quand nous avons eu maintenant tout le détail, nous passons maintenant à la dernière étape qui est la planification opérationnelle. Et dans la planification opérationnelle, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit sur comment faire. Nous allons commencer notre centre de santé, notre centre nutritionnel. Comment est-ce que nous allons travailler là-bas? Il nous faudra ouvrir combien de fois? Quel sera l'horaire? Les gens qui vont travailler, ils auront quel salaire? Et tout ça.
Mm-hmm.
Et nous,
on aura besoin de combien de gens?
On aura besoin de combien de gens et tout ça.
Oui.
Et tout cela, comment est-ce que nous allons le faire? Il nous faudra un règlement d'ordre intérieur. Il nous faudra voir comment sensibiliser les mamans pour qu'elles commencent à se cotiser. Tout ça, on commence déjà à réunir le moyen. Il faudra peut-être voir l'administrateur du territoire pour qu'il nous appuie. Et tout ça, là, nous sommes déjà dans l'opérationnalisation des actions. Et c'est ça l'étape qui commence maintenant. Donc, notre projet commence à avoir vie. En ce moment-là, nous sommes dans la planification opérationnelle.
Et là, il faut déterminer aussi les timings, dans combien de temps
absolument,
on doit lancer les projets.
Absolument,
oui.
Absolument. Il faut avoir les timings. Et pour avoir le timing, là, nous allons l'élaborer selon ce que nous appelons, il y a des outils. Hein.
Mmh.
Il y a un outil qui est le plus répandu, qu'on appelle le tableau de Gantt. Gantt, c'est le nom de la personne qui l'a inventé. C'est un tableau qui nous donne, qui a juste trois colonnes et qui détermine chaque activité, chaque étape de l'activité et le temps réel que ça va prendre. Exemple, nous devons acheter le terrain. Ok? Nous devons acheter le terrain.
Oui.
Ça nous prendra combien de temps pour aller prospecter et pour négocier le terrain avec les chefs terriens et pour l'acheter? peut-être ça va nous prendre 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes au 10 janvier. Nous devons faire cette activité dès la semaine au 7 janvier. Mmh. Nous devons faire cette activité de la semaine prochaine. Dans mon tableau, je dois les caler. Ça nous prendra 1 semaine. Donc, je partirai du lundi, qui est, je ne sais pas moi si c'est les 11 ou quoi, les 11, mettons le 11 janvier, jusqu'au 17 janvier. Je dois mettre une barre dans mon tableau pour démontrer que je vais commencer le lundi jusqu'au vendredi.
Donc, je dois finir cette activité dans ce temps-là.
Voilà.
Oui. On va accueillir Freddy Kabamba qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Freddy.
Et bonjour, la France de la paix.
Bien, aujourd'hui, nous abordons un thème, comment planifier les activités au sein d'une ONG. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça?
Oui, par rapport à ça, mon inquiétude que je voulais demander à notre invité, plusieurs ONG, selon Michel Lubumbashi, ils n'ont pas de bureau. On les voit toujours comme ça en cours de route. Il est en train de se dire, non, moi je travaille dans telle ONG, moi je travaille, mais on ne voit pas de bureau. Comment les aider pour qu'ils construisent leur bureau? Merci beaucoup. Et je salue notre bon réalisateur, M. Tati.
M. Tati Mapoukou. Voilà, merci Freddy et Mme Visiteur.
Merci beaucoup, M. Freddy. C'est vrai qu'il y a plusieurs ONG que nous appelons les ONG de mallette, hein, oui. Justement. Ce sont des ONG qui n'ont pas de bureau, oui. Et en plus qui n'ont pas d'activité.
Rien du tout.
Ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de bureau, mais ils pensent que le fait d'avoir écrit 2 pages, 3 pages... D'abord, moi, je reçois beaucoup de ces ONG. Mmh. Ils viennent avec... Ils vous disent, non, madame, nous avons un projet. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir un bailleur? J'ai dit, est-ce que je peux voir le projet? On vous donne un état de besoin. L'état de besoin n'est pas un projet. On vous dit, voilà, nous voulons construire une école, par exemple. Nous voulons construire une école, voilà, nous avons besoin d'acheter un terrain, nous avons besoin d'acheter des ciments, de briques et tout ça. On vous donne les détails, ça nous fait 100 000 $. On vous amène ça, 2 pages.
Un état de besoin.
Un état de besoin. Mais oui. Ils vous disent que voilà, c'est un projet que nous avons. En tout cas, 80% des cas que je reçois, ce sont des états de besoin et non de projet. Mmh. Et en ce moment-là, ce sont des gens qui pensent que non, à partir du moment où ils ont un état de besoin, donc il y a des bailleurs qui ont de l'argent et qui n'attendent que ça. En fait, c'est la mauvaise perception des choses. Hein. Beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir son état de besoin, on aura directement le financement. Mmh. Et il y en a même qui promettent déjà, et même d'autres qui prennent déjà des dettes, hein. Pour dire que voilà, on a un projet et on aura un financement. Et ce sont déjà là qui c'est l'heure. Parce que pour le moment, en tout cas, personne, aucune institution sérieuse, même pas les institutions sérieuses. D'abord, l'argent s'est fait rare.
Les bailleurs ne sont pas dupes. Hein.
Non, les bailleurs ne sont pas dupes. À un certain moment, je ne dirais pas qu'ils étaient dupes, mais ils étaient larges. Vers les années 80-90. En tout cas, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ONG sur les terrains, il y avait beaucoup de problèmes qui s'est posé, mais il n'y avait pas de gens pour les aider. Mmh. À ce moment-là, les gens venaient, il suffit que tu écrives quelque chose, vous discutez avec les bailleurs, ils vont t'aider à bien élaborer, et puis tu as les financements. Mais pour le moment, ce n'est plus possible. Toutes ces ONG-là qui n'existent que dans leur mallette, Ne vous en faites pas et ne pensez pas que demain ils auront le financement. Et moi, ça sera difficile qu'on les aide pour qu'ils planifient leurs activités parce qu'ils n'en ont même pas.
Ils n'ont pas
d'activité. Mmh. Ce sont des ONG qui n'ont ni vision, ni mission. Ils n'ont rien. Ils sont là, elles sont là seulement pour le besoin de la cause. Ils pensent qu'en étant là, donc, il y a possibilité d'avoir de l'argent. Et donc, avec ces gens-là, c'est vraiment difficile de les aider. Mais il y a aussi d'autres ONG qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont de très bonnes idées, qui ont commencé sur le terrain avec le moyen des bords et qui fonctionnent normalement avec le moyen des bords, mais qui ont des problèmes dans leur planification. Et ceux-là, ils ont besoin des renforcements de capacité en la matière. Et ceux-là, en tout cas, moi, je suis... On peut entrer en contact avec eux, je suis prête à les aider avec quelques conseils, certains petits outils si je peux en avoir. Et
alors,
tout ça.
Il peut vous appeler à quel numéro? Est-ce qu'il y a un numéro ou bien...
Ah oui, il y a un numéro. Mon numéro, c'est le 081-52-15-326. 081-52-15-326 ou le 099 099 058 85 40. Ce sont mes deux numéros, donc ils peuvent m'atteindre à ces numéros-là. Et on peut échanger si ce sont des ONG sérieuses, mais qui ont un besoin réel par rapport à la planification de leurs activités. Comme j'avais dit, que la planification, c'est un outil hyper important si on veut atteindre des objectifs. C'est un outil d'aide à la prise de décision dans une organisation.
Madame Brigitte, il y a quelques auditeurs qui nous ont envoyé des SMS. Je vois là, bonjour Jody, comment se remettre à niveau pour assurer une meilleure planification. C'est Maître Thierry Kinda qui nous a écrit, il est depuis Boutembo, il est le coordonnateur de l'ONG Radiprof. Radiprofé, quelque chose comme ça.
Sa question, il demande comment...
Comment se remettre à niveau pour assurer une meilleure planification?
Ben, il y a des formations qui existent. Hein. Il y a des institutions comme INADES Formation Congo qui donnent des formations en ligne aussi. Si on a accès à Internet, il peut donner des formations en ligne, sur la planification de projet et sur même la gestion d'une ONG. Et ça aide beaucoup.
Oui.
Parce qu'il y a ceux qui ont des idées, mais qui, faute des formations, ne savent pas aller loin. Et alors, s'ils contactent cette institution, ils peuvent les aider pour aller de l'avant.
Ami Sifataki, Félix Akindou nous écrit, dit, peut-on trouver, d'après lui, quelle est la différence entre la planification et les objectifs d'une ONGD?
Dans la planification, on doit commencer par les objectifs. En fait, les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, c'est tout simplement ce qu'on vise d'atteindre. Il y a d'abord la vision. La vision, avant d'arriver aux objectifs, il y a d'abord la vision. La vision, c'est un rêve. Un rêve qu'on s'imagine pouvoir atteindre, par exemple... qu'on veut réaliser. On s'est dit, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, voilà comment je rêve que mon village pourra être. Ça, c'est la vision. Et on doit commencer d'abord par la vision. Et quand on a déjà la vision, on va commencer à se poser des questions. Mais comment je peux faire pour arriver à atteindre cette vision? Et à partir de la vision, on va se donner des objectifs. Et on peut avoir plusieurs objectifs.
C'est comme des étapes qui vont vous aider à atteindre, à réaliser votre vision.
C'est comme des étapes.
Oui.
Et on peut avoir plusieurs objectifs. Et ces objectifs-là, c'est le but, en fait, dans le terme vulgaire, je peux dire que c'est le but ultime qu'on veut avoir en réalisant une activité. L'objectif, c'est fait par rapport à une activité. Tandis que la vision, elle est globalisante. C'est par rapport à tout un ensemble de choses qu'on pourra faire, des choses qui sont différentes, mais qui tous vous amènent à atteindre un certain niveau de vie que vous pensez être la meilleure pour vous.
Bien. Alors, Madame Brigitte, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tellement intéressant. Bon, on aura l'occasion d'y revenir prochainement. On va rappeler quand même les contacts. Pour ceux-là qui veulent vous joindre pour continuer la discussion, ils peuvent vous appeler au 081 52 15 326 ou au 099 058 85 40. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci
Madame
beaucoup.
Brigitte.
Encore une fois, mes meilleurs voeux à tous.
Merci.